Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque.
Voilà, je suis là parce que votre professeur de philo n'a toujours pas été remplacé. Donc c'est moi qui, en attendant, vais assurer les cours.
La philosophie n'a plus à donner ses raisons. Je pense comme je suis et formulé comme un cri.
Voilà. D'autres questions ?
Lorsque l'État abuse, que faut-il faire ? Lorsque nous sommes convaincus, au fond de notre conscience, que ce que le gouvernement nous dicte de faire est une erreur monumentale, alors est-ce qu'il faut quand même courber les chines ? Derrière ces questions, il y a un petit ouvrage et un concept qu'on va explorer ensemble, celui de désobéissance civile, théorisé dans les années 1850 par Henry David Thoreau.
I don't know my way around Toronto, etc. So it's almost by default. You know, I'm scared 24 hours a day, but not necessarily in New York. I actually feel pretty comfortable in New York. I get scared like in Sweden. You know, it's kind of empty, they're all drunk.
Depuis plusieurs années, je me refuse obstinément à payer une taxe à un État pour m'opposer à la guerre et à l'esclavage qu'il pratique. On m'a mis en prison pour cela, une fois, pour une nuit. Et alors que je contemplais le mur de pierre massif de 2 ou 3 pieds d'épaisseur, la porte de bois et d'acier d'un pied d'épaisseur, et les barreaux de fer qui filtraient la lumière, je ne pus m'empêcher d'être frappé par la vanité de cette institution qui me traitait comme si je n'étais fait que de chair, d'os et de sang qu'on pouvait enfermer. Je m'étonnais du fait que cette institution ait pu conclure, au terme de sa réflexion, que c'était là le meilleur usage qu'elle pouvait faire de moi, et qu'elle n'ait jamais pensé user de mes services en aucune autre manière. Et je vis surtout que, s'il y avait un mur de pierre entre moi et mes concitoyens, un autre se dressait devant eux. Un mur de lâcheté et d'inconséquence, encore plus difficile à franchir, avant qu'ils puissent être aussi libres que je l'étais. À aucun moment je ne me sentis enfermé, et les murs me semblaient un vaste gâchis de pierre et de ciment. J'avais l'impression d'être le seul de tous mes concitoyens à m'être acquitté de mon impôt. Un impôt moral, le refus d'allégeance. À l'évidence, ils ne savaient pas comment me traiter, et se comportaient comme des gens mal élevés. Chacune de leurs menaces et chacun de leurs compliments trahissait une méprise, car ils pensaient que mon désir premier était de me retrouver de l'autre côté de ce mur de pierre. À l'air libre. Je ne pouvais m'empêcher de sourire en voyant avec quel soin il verrouillait la porte sur mes pensées, des pensées qui les suivaient immédiatement au grand air, sans aucune gêne, sans aucune entrave. C'était en fait mes pensées qui constituaient le seul véritable danger. Ne pouvant m'atteindre, moi, ils avaient résolu de châtier mon corps, comme des petits garçons qui, ayant des griefs à l'égard d'une personne contre laquelle ils ne peuvent rien, choisissent de s'en prendre à son chien. Je vis que l'État était simple d'esprit, qu'il était aussi timide qu'une personne esseulée, enfermée chez elle, à astiquer son argenterie, et qu'il ne savait pas faire la différence entre ses amis et ses ennemis. Je perdis alors tout le respect que j'avais encore pour lui, et il me fit pitié. Ainsi, l'État ne tente jamais de s'adresser au jugement intellectuel ou moral d'un homme, mais seulement à son corps, à ses sens. L'État n'est doué ni d'un esprit supérieur, ni d'une honnêteté supérieure, mais uniquement d'une force physique supérieure. Je ne suis pas né pour que l'on exerce sur moi une quelconque forme de force. Mais pourtant, je tiens à respirer comme bon me semble. Nous verrons bien qui est le plus fort, de la foule dirigée par l'État ou de ma pensée. Parce que les seules personnes qui peuvent exercer une quelconque force sur moi sont celles qui obéissent à une loi supérieure à celle à laquelle j'obéis. Ces personnes-là me forcent à devenir comme elles, par l'exemple. Et lorsque je vois un gouvernement en proie au doute financier qui me dit « la bourse ou la vie », pourquoi devrais-je me dépêcher de lui donner ma bourse ? Il peut être en proie à de grandes difficultés et ne pas savoir que faire. À cela, je n'y peux rien. Il doit se débrouiller tout seul, comme je le fais moi. Inutile de pleurnicher, je ne suis pas responsable du bon fonctionnement de la machine sociale. Je ne suis pas le fils de l'ingénieur qui l'a conçu. Je vois que, lorsqu'un gland et une châtaigne tombent à côté l'un de l'autre, il n'y en a pas un des deux qui choisit de mourir pour laisser l'autre croître. Ils obéissent tous deux à leur loi propre, comme moi et l'État, et germent, poussent et prospèrent du mieux qu'ils peuvent le faire, jusqu'à ce que l'un, peut-être, finisse par faire de l'ombre à l'autre et le détruise. Si une plante ne peut pas vivre conformément à sa nature, elle meurt. Il en va de même pour un homme.
Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque.
Voilà, je suis là parce que votre professeur de philo n'a toujours pas été remplacé. Donc c'est moi qui, en attendant, vais assurer les cours.
La philosophie n'a plus à donner ses raisons. Je pense donc je suis et formulé comme un cri.
Voilà. D'autres questions ?